Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici d'abord les titres. Nord Kivu, renfort du M23, peur d'affrontement. Des mouvements militaires signalés dans le sud de Lubero poussent des habitants à fuir leur village. Mbujimayi, carburant en flamme. Le litre d'essence et de gazole passe de 6 000 francs congolais contre 4 000 à 4 500 il y a quelques jours. Une hausse brutale qui pèse déjà sur la vie quotidienne. CIJ ou CPI, deux cours, deux mandats. Tshibangu Kalala, professeur de droit international et spécialiste en droit public, qui est l'invité de ce journal, éclaire la différence entre la Cour internationale de justice qui juge les États et la Cour pénale internationale compétente pour les individus. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au Nord Kivu, des renforts en hommes et matériel militaire de l'AFC M23 sont signalés dans plusieurs localités du sud du territoire de Lubero depuis environ une semaine. Selon des sources sur place, ce mouvement ravive les craintes d'une reprise des affrontements. Conséquence, des habitants quittent leur village pour se mettre à l'abri. Les précisions de Martial Papimukeba.
Selon des sources de la société civile et des sources sécuritaires, ces renforts sont composés notamment d'armes lourdes et d'armes d'appui. Une évolution qui contraste avec les retraits observés en mars dernier dans une partie de cette zone. La société civile des Lubero estime que ces redéploiements pourraient annoncer une reprise des offensives de l'AFC M23. Son président Muindo Tafuteni évoque déjà des déplacements de la population vers des localités jugées plus sûres.
Confirmons le renforcement des positions du M23 sur les lignes de front à Kichombiro, à Limbongo et Bingi, Buleusa, Kateku. Cela n'a pas manqué à occasionner des mouvements de populations qui se sont retrouvées soit à Kipese, d'autres à côté d'Alimbongo et d'autres à Kaeri, Mkasuo, même à Lubero. Le fait qu'on voit des militaires qu'on attendait se retirer, encore renforcer de nouveau leurs équipes, probablement il y aura encore affrontement.
Des sources sécuritaires confirment également les renforcements des positions des combattants de l'AFC M23 dans plusieurs localités du sud du territoire de Lubero. Elles ne précisent toutefois ni l'ampleur de ces renforts, ni leurs objectifs. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ces temps, la situation humanitaire demeure préoccupante dans le territoire de Mambasa, à 165 km au sud-ouest de Bunia. Plus de 80 000 personnes déplacées ayant fui les attaques des rebelles ADF depuis janvier dernier n'ont toujours pas reçu d'assistance alimentaire. Face à cette crise, la société civile appelle les gouvernements et les organisations humanitaires à intervenir en urgence. Elle demande également le renforcement des opérations militaires pour permettre aux déplacés de regagner leur village. Isaac Remoyope.
Depuis le début de l'année, les attaques répétées des rebelles ADF ont contraint des milliers d'habitants à abandonner leur village dans les territoires de Mambasa. Parmi les localités les plus touchées figurent Babesua, Muchacha, Bafuakoa, Salate, Tepe, Itembo et Bandegaido, aujourd'hui presque entièrement vidées de leurs habitants. La majorité des personnes déplacées se réfugient à Mambasa Centre et à Nyanya, où elles sont accueillies dans des familles hôtes. Mais leurs conditions de vie restent très difficiles. Selon la société civile du Congo, l'accès aux champs est fortement limité, aussi bien pour les déplacés que pour les communautés d'accueil, en raison de la présence des ADF dans les environs. La société civile appelle les gouvernements et les partenaires humanitaires à fournir une assistance d'urgence à ces milliers de sinistrés. Elle demande également un renforcement de la présence des FARDC avec l'appui des partenaires afin de neutraliser les rebelles et de créer des conditions de retour sécurisées des déplacés dans leur village. Marie-Noël Anotane.
Humanitaire. C'est encore préoccupant. Depuis le début de l'année, avec toutes les incursions, les 300 des déplacés n'ont pas encore été assistés. Il y a toujours tentative des incursions.
Selon la société civile, seuls quelques 750 ménages ont bénéficié d'une assistance en espèces de l'ONG Caritas, en plus de quelques initiatives privées ayant permis de soutenir un nombre limité de familles. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Au Nord Kivu, le CICR accompagne chaque année au moins 2000 personnes dans son programme de réadaptation physique. Parmi elles, de nombreux blessés de guerre, amputés qui ont besoin de prothèses pour les bras ou les jambes, mais aussi d'anciennes victimes venues réparer ou remplacer leurs appareils. À Goma, ce travail s'est fait en collaboration avec le centre Shikira La Umoja, soutenu par le CICR pour offrir ses soins gratuitement. Mais aujourd'hui, la prise en charge de ces victimes de conflits se heurte à de nombreux obstacles. Alexandre Laouaoui, chef de ce programme au Nord Kivu, en parle ici au micro de Rosalie Zawadi.
Donc chaque année, on prévoit au maximum 4000 bénéficiaires. On n'est pas limité beaucoup plus au Nord Kivu, mais on a aussi d'autres centres. Mais au Nord Kivu, c'est le foyer, l'épicentre où on a beaucoup de blessés et beaucoup de patients qui nécessitent l'appareillage. On peut aller dans les 2000. Et ce qui est important sur ces 2000 bénéficiaires qui sont attendus dans ce centre, environ 80% sont liés au direct au conflit. Comme on prend en charge toutes les couches d'individus, que ce soit civil, militaire, homme, enfant, une tendance beaucoup plus directe liée au conflit qu'on remarque beaucoup plus d'hommes. Alors, on a beaucoup de défis. Si on compte les techniciens qualifiés qui doivent travailler dans ce centre de réadaptation, on est en nombre très insuffisant. Et puis, dans le contexte où il y a encore l'épidémie qui sévit, où les fermetures des frontières, l'inexistence des banques, on a des problèmes de cash pour faire fonctionner les centres. Et puis, avec la fermeture des axes, les bénéficiaires pour quitter de leur zone pour venir au centre, ça est un sérieux problème.
Pour pallier le manque du personnel qualifié, le CICR finance des bourses d'études afin de former de nouveaux techniciens orthoprothésistes. Parallèlement, l'organisation renforce son action dans la région de Beni où de nombreux bénéficiaires équipés de prothèses peuvent faire réparer ou entretenir leurs appareils directement sur place. L'ONG Vipatou poursuit avec l'opération de distribution de cash à plus de 6000 déplacés des sites de Kapango, Kirungu, Mulunde et autres en territoire de Moba, province du Tanganyika. Cette distribution s'est faite sous le financement du Programme alimentaire mondial. D'après les chefs de bureau de l'ONG Vipatou, ce cash permet aux déplacés d'acheter la ration alimentaire. Il appelle les déplacés à en faire bon usage. Les propos de Spalax Kitenge, chef de bureau de cette ONG, sont sélectionnés par Paul Monanga.
On a commencé depuis le 20 avec la distribution des cartes de ration. On a fini la distribution des cartes de ration et on a commencé à payer les cash. C'est aujourd'hui qu'on va clôturer avec le site de Kapango. Sur le 6787 ménages prévus dans ce site à distribuer, nous sommes déjà à 6400 et quelques. Et à Likasi, ça commence demain. On commence déjà le paiement, on commence déjà les cash. Et à Kasenga, on a commencé hier et on continue aujourd'hui avec la grande partie en espérant que demain, avant midi, on aura déjà à terminer Kasenga. La dernière phase sera au mois d'août, parce que cette ration, c'est pour le mois de juin et juillet. Les difficultés vraiment sont nombreuses par rapport aux activités qu'on a menées. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est l'incompréhension de nos bénéficiaires vis-à-vis de la sensibilisation qu'on a donnée aux bénéficiaires. Nous appelons à nos bénéficiaires de bien vraiment gérer la ration qu'ils ont reçue. Nous voulons à la prochaine distribution voir l'amélioration de vie par rapport à celle qu'on a vue au départ.
Au Kasaï oriental, je le disais en titre, les habitants de Mbujimayi font face depuis près d'une semaine à une hausse significative du prix du carburant. Le litre d'essence et de gazole se vend désormais à 6000 francs congolais contre 4000 à 4500 francs il y a quelques jours. Les importateurs de produits pétroliers évoquent des tensions internationales, notamment les conflits opposant les États-Unis à l'Iran, pour expliquer cette flambée. Sur le terrain, les conséquences se font déjà sentir. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans la ville de Mbujimayi, les nouvelles pancartes affichées devant les stations-service ne laissent aucun doute. Le litre de carburant coûte désormais 6000 francs congolais, une augmentation brutale alors qu'il se vendait encore à 4000 ou 4500 francs congolais il y a une semaine seulement. Christian Kabeya, vendeur en gros de produits pétroliers, confirme cette hausse et parle d'une situation inattendue mais difficile à contourner.
Le carburant, nous payons localement. On nous a dit que non, il y a une rareté.
Pour Kalenga Iwanzembele, président de la société l'association des importateurs de produits pétroliers du Kasaï, deux facteurs expliquent cette flambée.
La première cause, c'est la guerre entre les États-Unis et l'Iran. La deuxième cause, c'est l'interruption des trafics maritimes. Les stocks qui étaient sur le marché est en train de diminuer.
Sur le terrain, les effets sont immédiats. Sami Kaba, le conducteur de moto, affirme que les recettes journalières ont chuté.
Les clients refusent les prix, mais ils ne parviennent pas à réunir l'argent pour les versements.
Franklin Hippo, le client, explique que cette hausse déséquilibre complètement le budget familial.
Je devais arriver à l'aéroport, j'ai l'habitude de payer 2000 francs. Là, j'étais obligé de payer 3500.
Signalons enfin que les importateurs déplorent l'interdiction de transporter du carburant depuis l'Angola, une mesure qui, selon eux, accentue davantage la pénurie et la hausse des prix. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Une première au Maniema, des sociétés coopératives désormais détentrices des certificats d'immatriculation. Ce sont là les retombées de la Journée internationale des coopératives célébrée samedi 4 juillet dernier à Kindu. Il faut dire que cette opération d'enregistrement permet à ces entreprises de créer des emplois pour d'autres citoyens du pays, comme l'a souligné le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, qui a présidé cette cérémonie. Le point avec Florence Kizalunga.
Au total, 23 sociétés coopératives sont à l'honneur après obtention de leur certificat d'immatriculation. Un motif de joie pour Dafros Bitungwa de la coopérative Mama Wamabadiliko.
Ce n'est pas facile d'obtenir l'enregistrement de la coopérative. Cet enregistrement-là prend du temps pour que vous soyez formalisé. Mais nous, en un clin d'œil, la coopérative a été enregistrée.
Le point focal des sociétés coopératives minières artisanales pense qu'avec ces documents, ils vont maintenant bien travailler. Boulassila qui subit.
En tout cas, ce certificat d'immatriculation nous donne d'office ce qu'on attend par personnalité juridique.
Une occasion pour le gouverneur Moussa Kabankoubi de bien les orienter afin de participer au bien-être de la province.
Sur base des conseils nous donnés, pensons que nous devons maintenant donner du contenu à ces coopératives pour qu'elles puissent participer au développement socio-économique de notre province.
Après sa visite dans les tables d'exposition, Grégoire Mouchaïl Moutombe encourage les sociétés coopératives du Maniema.
D'abord, je les félicite énormément parce qu'ils ne sont pas au point zéro. Ici, j'exhorte mes frères et sœurs, membres des coopératives, de continuer le travail. Qui n'hésitent pas, nous sommes là pour les appuyer.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Les travaux de la route des rocades avancent et retiennent désormais l'attention du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, accompagné de plusieurs députés, a salué l'évolution du chantier et affirmé l'engagement de son institution à accompagner la réalisation de cet ouvrage. C'était à l'issue d'une visite d'inspection effectuée hier dimanche sur place. Supervisée par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ce projet vise à améliorer la mobilité dans la capitale. Les explications de Grace Amzati.
Accueilli au point kilométrique 4 de la rocade sud-ouest par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, le président de la Chambre basse du Parlement, à la tête d'une délégation d'élus nationaux, a d'abord reçu les détails de l'ensemble du projet. Dans sa présentation, le directeur général de la CGT, Nikon Zaonzao, indique que cette route relie Mboudi à la sortie de l'avenue Njoku vers l'aéroport, avec des sections en cours de revêtement et quatre ponts jetés sur les rivières dont le plus grand atteint 180 mètres de portée. Malgré les avancées observées sur les chantiers, Aimé Boji Sangara estime que plusieurs obstacles administratifs continuent de ralentir les travaux.
Il y a des petits soucis par rapport au rythme des travaux parce qu'il y a des soucis administratifs qui ralentissent le projet. Et donc nous allons nous saisir de ce dossier immédiatement pour donner un coup d'accélération.
À la rencontre des deux rocades avec la route nationale numéro 1 à Mitendi, le président de l'Assemblée nationale et sa suite ont reçu des explications sur les changeurs à trois niveaux en cours de construction. L'Agence congolaise des grands travaux dit mettre tout en œuvre pour que ce projet entièrement bouclé soit livré d'ici fin 2027.
Des rivières qui se transforment en poubelles, c'est le nouveau spectacle qui s'observe malheureusement à Kinshasa. Plusieurs rivières sont aujourd'hui fortement dégradées, notamment les rivières Makelele, Kalamu, Gombe ainsi que Njili qui font partie des plus touchées. elles sont progressivement envahies par des déchets de toutes sortes, sachets plastiques, bouteilles, ordures ménagères et aussi des défécations humaines. Ce phénomène transforme ces cours d'eau en dépotoirs à ciel ouvert, une situation préoccupante qui menace l'environnement et la santé des populations. Pour le professeur Jacques Munoka Mondo, expert des questions environnementales, cette réalité s'explique par plusieurs facteurs, notamment les difficultés de gestion des déchets, le manque d'infrastructures adaptées et l'insuffisance des sensibilisations. Reportage signé Ila Chembalou.
Les longs des rivières Makelele, Kalamu, Gombe, Ndjili, les constats est le même. Les déchets s'accumulent et modifient profondément les paysages. Plastiques, bouteilles, ordures ménagères et excréments envahissent les eaux et leurs abords. Pour le professeur Jacques Munoka, cette réalité résulte d'un ensemble de facteurs liés à la gestion urbaine.
Les citoyens ignorent la conscience environnementale sur ce qu'ils doivent faire. Vous allez voir dans certaines familles, ils ont même lancé les tuyaux de leur toilette dans la rivière. C'est un problème de conscience. Je prends par exemple, si vous êtes à côté de la rivière Kalamu, vous ne pouvez pas boire cette eau.
Selon lui, les conséquences dépassent les simples aspects visuels. Cette pollution dégrade les écosystèmes aquatiques, contamine les ressources en eau et favorise la propagation des maladies hydriques.
La pollution des eaux par les déchets constitue une menace directe pour la santé humaine, notamment par la propagation des maladies et l'accumulation de substances toxiques. Il faut qu'il y ait une sensibilisation pour qu'on puisse avoir une réglementation qui soit efficace.
Face à cette situation, l'urgence est désormais d'agir pour protéger les rivières de Kinshasa et améliorer la gestion des déchets dans la capitale.
Actualité internationale.
Au Comores. Ce 6 juillet 2026 marque le 51e anniversaire de l'indépendance, une journée de célébrations officielles, mais aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 1975. Plus d'un demi-siècle après l'accession du pays à la souveraineté, quel regard les Comoriens portent-ils sur l'état de leur pays ? Entre avancées reconnues, inquiétudes sociales et attentes envers les autorités, les avis restent contrastés.
L'invité.
La RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Annonce faite la semaine dernière par son représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la réunion du 27 juin consacrée à la situation du pays. Mais depuis, une confusion persiste. Beaucoup de personnes mélangent la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Pour éclairer cette différence, le professeur de droit international et spécialiste en droit public, Chibangu Kalala, nous explique en termes simples le rôle de chacune de ces institutions. Notre invité de ce jour s'entretient avec Benjamin Mudumbi.
Professeur Chibangu Kalala, bonjour.
Bonjour.
Professeur, en deux termes simples, quelle différence établissez-vous entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale?
La Cour internationale de justice, c'est une cour permanente créée par l'ONU. Pour faire quoi? C'est pour régler de manière pacifique les conflits qui peuvent opposer des États. De manière pacifique pour éviter des guerres. Parce qu'on a vu, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont provoqué des destructions humaines, des chez les biens. Et donc, il faut éviter de recourir à la guerre pour résoudre les conflits entre États. Donc, la Cour internationale de justice a été créée par l'ONU, donc par les États, pour résoudre de manière pacifique les différends qui peuvent surgir entre eux. Cette Cour ne juge que les États et pas les individus. C'est le cas que nous avons eu avec RDC contre l'Ouganda et contre la Guinée-Conakry. Et même la RDC contre la Belgique dans les passés récents. En revanche, la Cour pénale internationale, cette Cour ne peut pas juger les États. Cette Cour n'est là que pour juger des individus. Nous avons le cas dans notre pays où il y a eu des Congolais qui ont été jugés devant cette Cour. Thomas Lubanga, Ngodiolo, Germain Katanga, l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui ont été jugés par la CPI. Il n'est là que pour juger des individus soupçonnés d'avoir commis des infractions internationales. En résumé, c'est ça la différence entre les deux cours.
Alors, professeur, pour les cas de la RDC aujourd'hui qui a saisi officiellement la Cour internationale de justice contre le Rwanda, il y a peut-être des personnes, donc des individus qui sont impliqués dans des crimes. Alors, pourquoi la RDC opte aujourd'hui pour la CIG et non la CPI?
Oui, il y a une confusion dans l'opinion publique entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Peut-être aussi parce que ces deux cours siègent dans la ville de La Haye et pourquoi les gens font un peu de confusion. Pourquoi la RDC a choisi la CIJ au lieu de CPI? Comme je vous l'ai dit, la Cour internationale de justice juge les États et pas les individus. C'est la raison pour laquelle la RDC, qui est agressée par le Rwanda qui tue une population matin et soir, donc il fallait saisir la CIJ qui est compétente pour juger les États pour que cette Cour puisse aussi juger le Rwanda. Donc on ne pouvait pas aller accuser le Rwanda devant la CPI, Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale ne juge pas les États, juge les individus. Maintenant, la Cour pénale internationale est en train de mener des enquêtes dans notre pays depuis que la guerre a éclaté à l'est de notre pays, guerre menée par le Rwanda avec ses soldats, avec le M23. Et la CPI est en train de mener des enquêtes. Nous espérons que dans un proche avenir, la CPI pourrait lancer des mandats d'arrêt pour pouvoir procéder à l'arrestation des criminels rwandais ou congolais qui sont impliqués dans des massacres, des tueries, dans des crimes de guerre, des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité.
Professeur, d'après vous, quelles pourraient être les chances d'aboutissement de la RDC cette fois-ci?
C'est vrai, nous sommes à la troisième tentative contre le Rwanda. Il y a eu déjà deux requêtes en 1999, en 2002. La CIJ avait rejeté la demande de la RDC en 2006, le 3 février 2006. Dans un arrêt, en déclarant qu'elle n'est pas compétente pour juger le Rwanda. Ça fait 20 ans. Cette fois-ci, le gouvernement est revenu pour la troisième fois devant la CIJ pour poursuivre le Rwanda, surtout avec les derniers événements depuis 2021, où le Rwanda est en train de massacrer des Congolais et de notoriété publique internationale. Donc, quelles sont les chances de réussite? Nous sommes au début du procès. Quand on va dans un procès, on ne peut pas dire qu'on va gagner ou qu'on va perdre, parce que la décision appartient à la Cour. Donc nous espérons que le gouvernement, avec les équipes de juristes qui le conseillent, ils vont bien présenter le dossier devant la Cour pour convaincre la Cour que cette fois-ci c'est la bonne et amener la Cour d'abord à se déclarer compétente pour juger le Rwanda dans sa première phase et deuxième phase, aller au fond pour apporter des preuves crédibles et solides de l'implication du Rwanda dans les massacres de nos frères et sœurs à l'est de la République. Et attendons que la Cour se prononce à la fin de la procédure.
Professeur Tshibangu Kalala, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
C'était donc le professeur Tshibangu Kalala, notre invité qui s'entretenait avec Benjamin Mudumbi. Voilà qui met fin à cette édition du journal parlé de la mi-journée, préparée pour vous par Élisée Tshikota Tshivueta et Jean-Gandou Kabongo. La mise en onde était assurée des mains des maîtres par Jean-Claude Nsala Mwanama Kengontswalo. Vous pouvez suivre ce journal sur notre page TikTok, le réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.